Vous êtes avec SBS French.
Au sommaire, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1405 nouveaux cas de COVID-19 et 5 décès. Le gouvernement fédéral, fustigé pour sa lenteur à obtenir des doses de vaccins Pfizer, et les États-Unis et l'Allemagne discutent de l'avenir de l'Afghanistan sous le règne des talibans et la crise des réfugiés qui en découle. La première de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé la réouverture de toutes les écoles de l'État le 25 octobre prochain. Gladys Berejiklian estime qu'à cette date, 70% de la population de New South Wales aura été entièrement vaccinée. L'annonce intervient au moment où la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 1405 nouveaux cas de COVID-19 et 6 décès. La première de Nouvelle-Galles du Sud a en outre révélé que la levée de certaines dispositions du confinement entrera en vigueur le premier lundi après que 70% des personnes éligibles auront été doublement vaccinées. Gladys Berejiklian a insisté sur le caractère conditionnel de la levée du confinement.
If there's high rates of disease in a particular locality or a sudden surge or an outbreak, the Doherty report says you have to restrict movement in those communities. It doesn't mean you can't still go and do the things you want to do, but your mobility will be restricted within a particular distance.
De son côté, le Victoria a enregistré 324 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement et on signale que 107 des nouveaux cas sont liés à des cas et à des foyers connus. Plus de 54 000 tests COVID ont été effectués hier au Victoria et plus de 37 000 doses de vaccins ont été administrées. Entre-temps, le Queensland a enregistré un nouveau cas de COVID-19 acquis localement et ce cas a été détecté chez le frère d'un enfant de 4 ans de Binley, qui avait été testé positif la semaine dernière. Le garçon de 10 ans était en quarantaine à domicile. Anastasia Palaszczuk, la première du Queensland, estime que ce cas ne risque pas de déclencher une propagation du virus dans la communauté du Queensland. L'opposition fédérale accuse le gouvernement d'avoir raté l'occasion d'acquérir des doses du vaccin Pfizer à temps. Des emails montrent que la société pharmaceutique Pfizer avait pris contact avec le gouvernement au mois de juin de l'année dernière, proposant une réunion pour discuter d'un accord. Mais une réunion n'a pu se tenir qu'au mois d'août, plusieurs semaines après que les gouvernements américains et britanniques aient conclu des accords avec l'entreprise. Le porte-parole du Parti travailliste pour la santé, Mark Butler, a déclaré à la ABC que l'Australie aurait pu signer un accord bien avant le mois de novembre de l'année dernière.
The email exchanges between the company and the government show very clearly, while every other developed country in the world was tearing a hamstring to get into a meeting room with Pfizer and sign a supply deal on behalf of their people, there was a go slow in Australia. It was too little, too late from Scott Morrison, so we ended up signing an agreement 5 months after all of those countries.
Mais le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a réfuté l'accusation selon laquelle le gouvernement a manqué l'occasion de faire vacciner les Australiens plus tôt. On écoute Greg Hunt au micro de la chaîne Channel 9.
Pfizer yesterday, as they said before the Senate, made it clear there were no earlier doses available. What we received was the earliest possible available, and we received it in the quantities that they made available. And that's because, understandably, they were focusing on mass death.
Le premier ministre Scott Morrison a loué le sacrifice des Australiens bloqués à l'étranger en raison de la fermeture des frontières. Dans une vidéo publiée en ligne, le premier ministre a reconnu que ces personnes avaient manqué des moments spéciaux en famille. Il a décrit le plan pour les ramener en Australie. Il a en outre rappelé que la fermeture des frontières avait permis de sauver des vies.
These strong border controls, though, have been instrumental in saving over 30,000 lives here in Australia. I want to assure you that back home, though, we're working to implement the national plan that will bring you home, that will bring us all together again.
Et en France, les procès des attentats du 13 novembre 2015, les pires attaques djihadistes commises sur le sol français, s'est ouvert hier devant la Cour d'assises spéciale de Paris. 25 accusés doivent être jugés pendant 9 mois, dont Salah Abdeslam. Il s'agit du seul membre encore en vie du commando des commandos qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis. Les partis civils craignaient qu'il reste silencieux, mais il s'est montré bavard. Dans ses premiers mots, Salah Abdeslam a déclaré « J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique ». Il a en outre estimé avoir été traité comme un chien pendant sa détention. Pour Dominique Kielmos, la mère de l'une des victimes tuée dans l'un des cafés de Paris, il y a des déclarations d'Abdeslam selon lesquelles il n'y a de justice que la justice divine est une provocation de plus.
Pour nous, c'est quand même une provocation, quoi, de déclarer qu'il n'y a de justice que la justice divine, et alors qu'il est, il est coupable d'avoir tué 130 personnes, 490 blessés et des vies foutues en l'air, parce qu'il y a évidemment ces jeunes qui sont morts. Mon fils était quelqu'un de plein d'espoir. C'est tous ces jeunes qui sont rescapés mais blessés physiquement, qui n'auront plus jamais la vie dont ils rêvaient, et puis tous les proches. Voilà, moi je suis ici avec mon mari, mon fils aîné n'est pas là, la fiancée de Victor n'est pas là non plus, mais notre vie est évidemment en morceaux depuis 6 ans. Alors on recolle les morceaux petit à petit, le mieux qu'on peut, mais c'est inimaginable.
Les premiers jours de ce procès seront consacrés à la constitution des partis civils, dont les auditions devraient ensuite se dérouler de fin septembre à fin octobre. Suivront 3 semaines dédiées à la personnalité des accusés, lors desquelles témoigneront plusieurs proches des terroristes décédés. Des témoins de renom sont également attendus à la barre, à commencer par l'ancien président de la République, François Hollande. Et sur le continent africain, à la suite d'une réunion virtuelle de l'institution de la... Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la Guinée a été suspendue de ses instances en réaction à la prise du pouvoir par des militaires dimanche à Conakry. Les dirigeants du bloc communautaire ont également exigé la libération du président Alpha Condé, détenu par les putschistes, et décidé d'envoyer une délégation de haut rang dès ce jeudi à Conakry. Magali Lagrange pour RFI.
Oui, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest condamne le coup de force des militaires en Guinée. À l'ouverture du sommet, le chef de l'État du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui assure actuellement la présidence de l'organisation, l'a qualifié de violation claire de la charte de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. Dès dimanche, l'organisation régionale avait déjà condamné le coup d'État et brandi la menace de sanctions sans toutefois en préciser la nature. Les participants, 10 chefs d'État ainsi que les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Cap-Vert et le vice-président du Nigeria exigent le respect de l'intégrité physique d'Alpha Condé, arrêté lors du putsch, ainsi que sa libération immédiate. Ils appellent également à un retour à l'ordre constitutionnel. La Guinée est suspendue de toutes les instances de la CEDEAO et une mission de haut niveau, composée de la ministre ghanéenne des Affaires étrangères et du président de la commission de la CEDEAO, est envoyée sur place dès ce jeudi pour évaluer la situation.
C'était Magali Lagrange pour RFI. Le secrétaire d'État américain et son homologue allemand Heiko Maas se sont rencontrés hier à la base américaine de Ramstein. Il faut rappeler que Ramstein est la plus grosse base américaine à l'étranger et c'est là que les personnes évacuées d'Afghanistan ont été transportées et ont transité. Les deux chefs de la diplomatie ont discuté avec d'autres pays de la réponse à donner au nouveau régime des talibans. Il s'agissait aussi pour Washington et Berlin d'afficher leur unité, alors que l'Allemagne, deuxième force présente en Afghanistan, n'a guère apprécié de ne pas avoir été informée par les USA de leur retrait accéléré d'Afghanistan. Pascal Thibault, RFI.
Les talibans recherchent une légitimité internationale, ils devront d'abord la gagner. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, comme son homologue allemand Heiko Maas, attendent des nouveaux dirigeants afghans qu'ils satisfassent différentes exigences. Un gouvernement incluant des personnalités qui n'appartiennent pas au mouvement taliban, l'assurance que les Afghans qui le souhaitent puissent quitter leur pays, le respect de certains droits fondamentaux, notamment ceux des femmes et des minorités. Les deux ministres des Affaires étrangères qui se retrouvaient sur la base américaine de Ramstein, où 34 000 personnes venant d'Afghanistan ont été transportées, ont tenu une conférence virtuelle avec une vingtaine de pays. Son objectif, se mettre d'accord sur la réponse internationale à apporter au régime des talibans. Malgré ces exigences adressées à Kaboul, Anthony Blinken comme Heiko Maas ont admis que des contacts avec les talibans avaient lieu et étaient indispensables pour négocier l'évacuation d'autres personnes du pays, mais aussi permettre à l'aide humanitaire particulièrement nécessaire de parvenir aux populations qui en ont besoin.
Toujours concernant l'Afghanistan, l'ancien président Ashraf Ghani s'est excusé pour la chute brutale de son gouvernement et a nié avoir fui le pays avec des millions de dollars. M. Ghani a fui la capitale afghane, Kaboul, alors que les forces talibanes atteignaient la périphérie de la ville le mois dernier. Il a posté sur Twitter qu'il était parti à la demande de son équipe de sécurité et que ce fut la décision la plus difficile de sa vie. Il a en outre nié les informations selon lesquelles il s'est enfui aux Émirats arabes unis avec des millions de dollars en espèces. Et retour en Australie pour un coup d'œil météo sur l'ensemble, la plupart des villes du pays. Perth, 18 degrés, Adélaïde, 25, Melbourne, 24 degrés, Hobart, 18, Canberra, 19, Wollongong, 26, Sydney, 27, Newcastle, 27, Brisbane, 25, Cairns, 27 et Darwin, 35 degrés. Et un rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1405 nouveaux cas de COVID-19 et 5 décès. Le gouvernement fédéral fustigé pour sa lenteur à obtenir des doses du vaccin Pfizer. Les États-Unis et l'Allemagne discutent de l'avenir de l'Afghanistan sous le règne des talibans et la crise des réfugiés qui en découle. C'est tout pour l'actualité. Après la pause, le magazine des sports avec Jean-Noël Ducasse.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.